chronique historique de François Thérien. Voici le studieux Sieur de Thérien.
Je suis le studieux.
Oh oui.
C'est très hot. C'est la deuxième fois que je l'entends, puis je pense que je vais le trouver bon jusqu'à la dernière fois. François, une chronique historique, parce qu'aujourd'hui marque un anniversaire important.
Oui, en fait, cette année, je vous dirais plus, là, c'est le 100e anniversaire de la D-League de baseball des Noirs aux États-Unis. Parce que la ségrégation frappait pas juste la vie ordinaire, là. La vie sportive aussi, c'était les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre côté. Et les Noirs au baseball, ben, il y avait des joueurs aussi bons.
Ben,
c'était un sport aussi populaire chez eux que chez les Blancs. Alors, il y a eu ce qu'on a appelé, puis c'est comme ça que ça s'appelait, là, les Negro Leagues. Ils s'appelaient comme ça, et même les Noirs appelaient leur ligue comme ça. Leagues avec un S, parce qu'il y en a eu plusieurs.
Ben oui, puis tu sais, quand j'ai vu le terme là au début, quand tu m'as parlé de cette chronique-là, là, j'ai dit, voyons donc, on peut pas dire ça de même, c'est donc ben, ça n'a pas de bon sens d'appeler cette ligue-là comme ça. Mais je suis allé voir sur Internet, puis encore aujourd'hui, tous ceux qui parlent de cet anniversaire-là, d'autant tous les plus grands sites sportifs, ils l'appellent vraiment comme ça, les Negro Leagues, autant mal à l'aise ça peut nous mettre, là, parce que j'aime pas ça dire ce mot-là du tout, mais c'est vraiment de même que ça s'appelait.
Ouais. Il y a très, très peu de joueurs noirs qui ont joué dans les ligues majeures avant 1947, mais il y en a eu. Je vais vous l'expliquer. 1947, là, c'est la fameuse arrivée de Jackie Robinson dans le baseball majeur qui a révolutionné à jamais le sport et qui a ouvert les portes aux joueurs de couleur au baseball majeur. Dès la fin de la guerre civile, là, au moment où, en principe, les Noirs avaient reçu leur émancipation, le baseball monte en popularité aux États-Unis. Les Noirs s'y adonnent aussi. Et dans les années 1880, il commence à mettre sur pied des ligues professionnelles. Il y en a eu deux qui n'ont pas duré très longtemps. La Southern League of Baseballists, qui n'a duré qu'une saison en 1885, et de même que la National Colored Baseball League, alors la ligue de baseball nationale des joueurs de couleur, qui a eu pignon sur rue en 1887, mais les deux n'ont fait qu'une saison. Le problème qu'il y avait, c'est que les spectateurs noirs ne venaient pas assez grand nombre à ces matchs-là. Donc, on n'avait pas assez d'argent pour payer de bons joueurs pour jouer dans ces ligues-là. Alors, finalement, ils ont été incapables de survivre, les deux. Il y a d'autres ligues tout aussi éphémères qui vont voir le jour avant l'établissement d'une ligue durable en 1920. Mais le pire là-dedans, c'est qu'il s'en est fallu de peu pour que les Noirs puissent jouer dès le départ avec les Blancs.
Ah oui?
Parce que le baseball, les deux ligues qu'on connaît, la Ligue nationale et la Ligue américaine, la Ligue nationale a été la première qui a été mise sur pied en 1876. La Ligue américaine est venue un peu plus tard, en 1901. Et dans les années 1880, il y a des équipes de la Ligue nationale qui employaient des joueurs noirs. Il y en a quelques-uns qui ont joué, puis personne ne disait rien. Les propriétaires voyaient qu'un joueur X était bon, il était noir, pas grave, on le prend.
Non, mais c'est ça, il me semble que tu veux la meilleure équipe possible.
Logiquement, c'est ça. Mais là, tranquillement, il a commencé à avoir des plaintes. Il y a des gens qui ont dit, non, là, ça marche pas, là. Il peut pas avoir des joueurs noirs qui jouent avec des joueurs blancs. Alors, vers la fin des années 1800, l'année, c'est pas clair, c'est 1887 ou 1889, il y a eu une règle, puis ça a été clair. Pas de noirs, pas de joueurs de couleur. Parce que quand on parle des noirs, on parle des Afro-Américains, mais aussi les Latins. Ils ne pouvaient pas jouer là-dedans non plus. Là. Okay. Les joueurs de couleur, là, ils ne pouvaient pas jouer dans le baseball majeur.
Mais est-ce qu'ils pouvaient jouer dans les ligues de noirs ou le
ben,
non
c'est
plus,
ça, ben, c'est ça. Oui, ben, c'est ça. Là, okay. Les Latins et les Noirs jouaient entre eux dans les fameuses ligues de joueurs afro-américains ou en anglais Negro League.
Hey, c'est sûr que tu avais des équipes en plus de la ligue afro-américaine qui étaient bien meilleures que les équipes de blancs. Ben, c'est sûr que oui, ils se sont jamais mesurés l'un contre l'autre.
Ben, non, c'est arrivé. Il n'y a jamais d'équipes noires qui ont joué contre des équipes des majeures, mais dans certaines villes, là, il y avait les équipes de joueurs afro-américains, là, c'était beaucoup des équipes qui se promenaient, des équipes itinérantes qui se promenaient, on se formait une équipe de bons joueurs, puis on allait se promener dans différentes villes, puis on jouait contre des équipes locales. Puis c'est arrivé à quelques reprises qu'il y a eu des affrontements entre des équipes noires, de joueurs noirs et des équipes de joueurs blancs. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. Et je sais qu'il y en a une, là, qui est ressortie des limbes de l'histoire il y a quelques semaines. Ça a été disputé, il me semble, c'est en Alabama ou en Arkansas en 1925, si ma mémoire est bonne. Puis c'était l'équipe des joueurs noirs qui avait gagné 10-8. Mais il y en a eu quelques-unes, mais elles n'ont pas, on les connaît pas beaucoup. Il n'y a pas eu beaucoup de documentation sur ces matchs-là.
Okay.
Donc, après la Première Guerre mondiale, c'est là que le baseball afro-américain là, commence à s'améliorer notablement, parce que pendant la guerre, les Afro-Américains ont travaillé dans les usines d'armement et tout, et leur niveau de vie est mieux. Alors, en 1920, il y a un ancien joueur vedette du baseball afro-américain qui s'appelle Ruby Foster. Il relance les ligues majeures noires. Et là, c'est à ce moment-là que hop, les Afro-Américains allaient davantage au match parce qu'il y avait les moyens de payer l'admission.
Ouais, c'est ça.
Donc, on avait les moyens de payer des joueurs. Alors là, ces ligues-là ont commencé à prospérer tranquillement. Entre 1920 et 1950, il y a eu plusieurs ligues. C'est pour ça qu'on appelle ça les Negro Leagues.
Avec un S, là.
Parce qu'il y en a eu plusieurs. Parmi les plus importantes, de 1920 à 1931 et de 1933 à 1948, il y a eu la Negro National League. C'était une dizaine d'équipes qui en font partie dans la première mouture, puis 7-8 dans la seconde. Ça variait, là. Il y a des équipes qui ont joué un an puis qui ont disparu. Mais en gros, là, les équipes qui restaient, là, c'était à peu près ça. Il y a eu la Eastern Colored League de 1923 à 1928. Ça, c'est une ligue qui est née de la scission de certaines équipes avec la National League. Là.
Okay.
Eux autres étaient davantage dans l'Est. Ils trouvaient que les voyages étaient trop longs. Fait qu'ils ont fait leur propre ligue. Ils étaient 6-7 équipes.
Ben, c'est vrai que ça devait être long en passant.
Ben, c'est ça. Là,
il y avait un grand territoire à couvrir.
Ben, c'est ça. On ne voyageait pas en avion dans le temps. Là, alors, c'était un petit peu plus long.
Ben, oui.
Et finalement, il y a eu la Negro American League de 1937. Quelque part jusque dans les années 50, 7 à 8 équipes selon les saisons. Et ça, là, les années 30, et le début des années 40, ça a été les années glorieuses du baseball afro-américain. Il y a plusieurs des meilleurs joueurs noirs du temps de la ségrégation qui ont joué dans ces années-là. En tout, il y a 35 joueurs ayant évolué plusieurs années dans ces ligues qui sont aujourd'hui au temps de la renommée du baseball. Puis de ces 35-là, il y en a seulement deux qui ont joué dans les ligues majeures. Mais évidemment, il y en a d'autres qui sont au temps de la renommée, des joueurs de couleur, mais qui ont joué la majorité de leur carrière dans les majeures. Parce qu'une fois la barrière de la ségrégation brisée grâce à Jackie Robinson, ben là, les portes se sont ouvertes pour les joueurs de couleur, puis il y en a eu beaucoup.
Mais là, aujourd'hui, y a-t-il façon un peu de rendre hommage à cette époque-là ou à ces joueurs-là?
Oui, il y a un musée qui existe, qui est un musée qui est dédié à l'histoire de ces ligues-là, qui a vu le jour au début des années 90 à Kansas City. Pourquoi Kansas City? Parce que c'est à cet endroit-là qu'on a fondé les Negro Leagues en 1920.
Okay.
Alors, on a décidé de faire le musée là-bas. Il s'appelle le Negro Leagues Baseball Museum. Alors, si jamais vous passez dans le coin de Kansas City, là, c'est une place à voir parce qu'il y a plein de joueurs qu'on ne connaît pas, qui ont été excellents, qui auraient pu jouer dans les majeures là, facilement, mais qui ont vécu un peu dans l'anonymat du baseball afro-américain.
Ben, oui.
Mais ce musée-là les fait connaître davantage.
Ben, c'est surtout que c'était il y avait probablement d'excellents joueurs dans
cette ligue-là. Il y en a plein, là, je pourrais vous en nommer, là, qui ont été excellents, puis qui se comparent avantageusement aux meilleurs joueurs des ligues majeures composés exclusivement de joueurs blancs à la même époque, puis qui auraient fait monter le calibre. D'ailleurs, c'est pour ça là, qu'à un moment donné, ils se sont dit, ce serait peut-être le temps qu'on en prenne de ces joueurs-là. Là. Ils sont au moins aussi bons, puis probablement meilleurs que certains joueurs blancs qui jouent dans les majeures aujourd'hui.
Bon, mais c'est quoi, vous voulez gagner ou pas?
Ben, là, c'est ça. Donc là, à un moment donné, là, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, avec la quantité d'Afro-Américains qui s'étaient battus sous les drapeaux des États-Unis, il y a quelqu'un qui a dit, ben là, ça serait peut-être le temps que... Il y a eu de la résistance, remarquez. Regardez le film de Jackie Robinson, là...
Ouais.
Il a mangé son pain noir, c'est le cas de le dire, lui, pendant sa première saison, parce qu'il y avait des joueurs de d'autres équipes et des spectateurs de stades d'équipes adverses. Pour eux, là, c'était une hérésie de voir un noir sur un terrain de baseball. Là. Alors, il a fallu qu'il serre les dents d'aplomb, lui, parce que ça n'a pas été facile. Là.
Ce qui est spécial, c'est qu'aujourd'hui, mettons, en 2020, c'est... Comment je te dirais ça? Disons qu'il y a beaucoup de gens qui adorent regarder des athlètes noirs performer dans différents sports professionnels, puis on les adule et puis on est fiers, on les encourage. Par contre, ces mêmes personnes qui sont très à l'aise de voir un noir pratiquer un sport professionnel puis faire gagner son équipe, ne seraient peut-être pas à l'aise de l'avoir comme collègue de travail, par exemple.
Mmh.
On dirait que le
ou
sport
de l'avoir
professionnel,
comme voisin.
Voilà. Mais le sport professionnel aujourd'hui, c'est devenu un endroit où moi je connais peu de gens qui aiment pas un joueur parce qu'il est noir, par exemple. Par contre, il y a encore des gens autour de nous qui sont racistes puis qui veulent pas de noir comme voisin ou qui veulent pas travailler avec un noir. Mais le sport professionnel, là, on dirait que tout passe. Mais à l'époque, ça a été un long chemin pour se rendre là parce qu'il y avait des ligues qui étaient consacrées aux noirs parce que les blancs voulaient pas jouer avec eux.
Il y avait pas le choix. Si vous voulez jouer, il fallait que vous jouiez dans ces ligues-là.
C'est super intéressant, François. Merci beaucoup.
Bienvenue.